24, le psaume 24, avec l'introduction que notre frère a donnée tantôt, je pense que j'aurais juste à dire merci Seigneur, amen, parce que tout est inclus dans la convocation tantôt, sur le psaume 15 qui est vraiment un parallèle un peu, un des psaumes parallèles avec le psaume 24. Donc, psaume 24, je vais le lire dans la version Semeur. J'apprécie beaucoup cette version-là ici. Nous dit, « La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui, avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établie fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. » Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Et c'est important de mentionner ici qu'il y a une pause. Relevez vos frontons aux portes, aussi vous, vos portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel vaillant dans les combats. Relevez-vous, vos frontons aux portes, aussi vous, vos portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui, le roi glorieux. Amen. Amen. Donc, ce psaume-là, on va le diviser en trois parties. Ça va être un message qui est assez simple, mais on va le diviser en trois parties. La première partie, c'est le vrai Dieu, créateur de l'univers, versets 1 et 2. Deuxième partie, les conditions pour accéder à la présence de Dieu, versets 3 à 6. Et troisième point, l'entrée du roi de gloire, versets 7 à 10. Comme vous avez vu du début, ça dit tout simplement à l'introduction, ça dit de David. Donc, on connaît simplement l'auteur du psaume. On ne sait pas, pour la plupart, on n'a pas d'indication pour savoir pourquoi ce psaume a été écrit. Mais selon plusieurs commentateurs, le psaume 24 aurait été écrit à l'occasion du retour de l'Arche de l'Alliance à la cité de David. Ça, cette histoire-là, vous allez le voir, puis vous avez sûrement déjà lu, dans le 2 Samuel chapitre 6. Vous vous souvenez de la première tentative, David et le peuple se sont mis en marche avec l'Arche de l'Alliance de Baal et Judée. Donc, c'est un dieu, un lieu de Juda qui était voué à Baal, qui était aussi appelé Kirjat-Jearim, ou Kirjat-Baal. Donc, une ville qui est sur la frontière nord de Juda et frontière ouest et sud de Benjamin. L'arche se trouvait dans la maison d'Abinadab. En le plaçant sur l'arche sur un... Ça, c'est la première tentative. En plaçant l'arche sur un char tiré par des bœufs, ce qui n'était pas conforme aux instructions qui avait été donné, car les fils des Lévites devaient porter l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Les bœufs ont fait un faux pas et l'arche a basculé. Et vous vous souvenez d'Uza, pauvre Uza qui a saisi l'arche pour ne pas qu'elle tombe et Dieu l'a frappé de mort en raison de sa faute. Quelle a été la réaction de David? Il a été à la fois irrité, dans d'autres traductions ça dit qu'il a été troublé devant la punition que Dieu avait fait subir à Uza. Et il a également eu peur de l'Éternel. Parce qu'on se rappelle que l'Arche de l'Alliance représente la présence de Dieu parmi son peuple. Et on peut noter aussi dans 2 Samuel 6 comment l'Arche est décrite. Elle est appelée l'Arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre le chérubin au-dessus de l'Arche, ou à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le maître de l'univers qui siège au-dessus d'entre les chérubins. Donc, David, lorsqu'il aperçoit ce qui arrive à Uza, il est troublé à la fois, il est irrité dans d'autres traductions, mais il est aussi effrayé de la part de l'Éternel. Donc, il renonce au projet de transporter l'arche chez lui dans la cité de David. David dit, « Comment oserais-je faire venir le coffre de l'Éternel chez moi? » Donc, devant la sainteté de l'Éternel, il réalise lui-même qu'il est un homme pécheur. Non seulement Uza, mais il réalise que lui-même est un homme pécheur. Ça, vous le voyez dans 2 Samuel 6, verset 9. Il décide donc d'envoyer l'arche chez Obed-Édom, qui lui-même est lévite. Et Obed-Édom habitait à Gath. C'est quand même particulier. Gath, c'est le lieu de naissance de l'ennemi par excellence des Israélites, c'est-à-dire Goliath. Après 3 mois, on apprend à David que l'arche apporte la bénédiction à Obed-Édom et sa famille. À ce moment-là, David change d'idée, décide de ramener l'arche de l'Alliance. Dans 1 Chronique 15, ça nous indique que David avait bien appris la leçon suite à la mort d'Uzza pour le transport de l'arche. Verset 11 nous dit « David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiathar. » Je pense que ça fait un petit peu de pouf-pouf. Je vais essayer de le baisser un petit peu. Excusez-moi. Donc, au verset 11, « David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiathar et les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Shameja, Eliab et Aminadab. Il leur dit, « Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'étiez pas là pour la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. » Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu, excusez, sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Donc, l'arche a été portée et apportée adéquatement. Des sacrifices ont été offerts au Seigneur, même après 6 pas, il y a des sacrifices de taureaux qui ont été offerts. Et le tout a été fait dans une grande réjouissance, car l'arche de l'Alliance, signe de la présence de Dieu parmi son peuple, était de retour parmi le peuple d'Israël et a été placée dans la cité de David. On va se souvenir de ce qu'on vient de mentionner, parce que c'est important de voir après ça, selon le psaume 24, un petit peu les parallèles qu'on peut voir dans ce psaume-là. Partie 1, donc le vrai Dieu créateur de l'univers, on relit les versets 1 et 2. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. On va plutôt lire le verset 1 pour commencer. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. Ce passage-là nous rappelle que Dieu est souverain en toutes choses et sur toutes choses. Dieu en est l'auteur, le créateur et le propriétaire. Donc, tout ce qui a été créé, la terre, le ciel, l'univers, tout ce que la terre contient, appartient à Dieu, le créateur, le propriétaire. Même on dit dans ce verset-là, l'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. Donc, les hommes ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Ils ont et auront des comptes à rendre à leur propriétaire. Ça, il ne faut pas oublier ça. Les hommes, si on réalise, on regarde l'homme qui est séparé de Dieu, qu'est-ce que l'homme fait? Il clame que sa vie lui appartient lui-même. Puis nous, on était comme ça jusqu'à temps que le Seigneur nous rencontre. L'homme et la femme, séparés de Dieu, c'est comme Adam et Ève, vivent selon la voie d'un autre. Donc, l'homme séparé de Dieu vit comme s'il était le Seigneur de sa propre vie. Il est voué à la mort et au jugement. Et ça nous est rapporté dans certains des psaumes, si vous lisez dans psaume 93, verset 97, psaume 93 et psaume 97, ça nous parle du règne de l'Éternel qui règne sur toutes choses. Et psaume 96, verset 13, ça nous dit aussi, « Il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. » Rappelons-nous vraiment, en tant qu'homme et femme, puis surtout, peu importe l'homme, on aura tous un compte à rendre devant notre Créateur. Et on doit vraiment le prendre au sérieux également. Oui, on appartient au Seigneur, puis même nous, c'est sûr, on est parfaitement justifié par le Seigneur, mais on va passer aussi un jugement également, mais le jugement des bonnes œuvres, des œuvres aussi qu'on a fait également. Donc, on va passer dans ce jugement-là. Alors, c'est pour ça qu'on doit aussi vivre notre vie de façon sérieuse devant le Seigneur. OK, on va être accepté dans sa présence, c'est clair, mais un jour, on va quand même rendre compte aussi des œuvres. Certaines des œuvres vont passer par le feu et vont subsister. D'autres œuvres ne passeront pas et vont être éliminées par le feu. Verset 2. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qu'il a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Ce verset nous rappelle que Dieu est aussi le Créateur. Ce passage-là aussi nous rappelle un peu le récit de la création dans Genèse 1, versets 9 et 10, qui disait « Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. » Et on se rappelle que dans selon Jean, chapitre 1, verset 3, la Trinité était déjà là. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et tout a été créé par la parole de Dieu, par Jésus-Christ qui était déjà présent lors de la création. Proverbe 8, 29 nous rappelle, « Et quand il assigna à la mer les limites pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, je me tenais bien fermement à ses côtés. » Ça, on parle de la sagesse qui est personnifiée par une personne, la sagesse aussi. Alors Dieu, dans sa création, dans la création de Dieu, et aussi dans ce passage-là, nous rappelle que Dieu fixe les limites de la terre et de l'eau. Ce qui nous rappelle que Dieu maintient l'ordre de la création par sa parole, par Jésus-Christ. Si on se souvient dans Hébreux 1, verset 3, ça dit « Soutenant toutes choses par sa parole puissante ». Et Colossiens 1, verset 17, « Toutes choses subsistent en lui », c'est-à-dire en Jésus-Christ. Donc, rien n'est maintenu hors de la parole de Dieu. Rien n'est maintenu hors de Jésus-Christ. Tout est maintenu par lui. Et si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, le déluge a été possible que par le commandement de Dieu, par sa parole, afin de détruire la terre par le jugement en raison de la rébellion et de la méchanceté de l'homme qui se tournait constamment vers le mal. Genèse 6, verset 1. Mais Noé trouva grâce au Dieu de l'Éternel. Donc, il y a encore cette grâce et cette rédemption qui est possible, alors que Dieu n'a pas fini avec l'être humain. Il veut continuer cette œuvre de rédemption à travers Noé et sa famille. Donc, à ce moment-là, oui, il y a le déluge où ce que Dieu permet par sa parole que les limites entre l'eau et la terre ne soient plus respectées. Il y a un déluge sur toute la terre. Mais par la parole de Dieu, puis aussi après un certain temps, il y a un rétablissement des limites de la terre et de la mer par Dieu, qui fait une alliance et une promesse de ne plus détruire la terre par l'eau. Cet événement-là nous rappelle une chose, puis Pierre nous le rappelle dans son épître, qu'un jour, oui, Dieu a promis qu'il ne détruira plus jamais la terre par l'eau, mais un jour, le Seigneur va détruire la terre par le feu. Et c'est quand même un rappel. Tout ce qu'on voit dans les Écritures, tout ce qu'on voit même aujourd'hui, quand il y a des catastrophes naturelles, peu importe quoi que ce soit, on se rappelle toujours que c'est un petit peu une idée de ce que sera le jugement de Dieu, le jugement final également. Psaume 119, verset 89, toujours en rapport avec la limite de l'eau et des eaux. De l'eau et la terre. Verset 89, « À toujours, Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. » Verset 91, « D'après tes lois ou tes ordres, donc ta parole, tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. » Alors, ce verset-là nous rappelle vraiment, non seulement les versets 1 nous rappellent, Dieu est souverain sur toutes choses, Dieu est le propriétaire de toutes choses, on a des comptes à rendre. Et deuxièmement, Dieu a créé toutes choses aussi. Et donc, il est maître de toutes choses. Partie 2, les conditions pour accéder à la présence de Dieu, les versets 3 à 6. On lit les versets 3 qui dit, donc ça commence par une question, qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? Donc, premièrement, qui pourra accéder et qui pourra se tenir dans la maison de l'Éternel, sur le monde de l'Éternel. Donc, ça nous dit ici, lorsqu'on parle de se tenir, ça veut dire, un des synonymes, ça vient de l'hébreu kum, Q-U-W-M, qui dit, soit se maintenir, qui pourra supporter aussi, qui pourra supporter la présence de Dieu, la sainteté de Dieu, qui pourra endurer, qui pourra être prouvé ou éprouvé, devant la présence de Dieu. Donc, La question se pose, qui va pouvoir le faire? Verset 4, ça répond en disant dans la version sommaire, l'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Excusez-moi, je recommence. L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, ou celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, ça c'est la version seconde. Qu'est-ce que ça veut dire, les mains innocentes ou innocentes aux mains nettes? Ça veut dire que ces actions, on parle des actions ici de l'être humain, elles doivent être innocentes, elles doivent être pures, elles doivent être exemptes de toute culpabilité. Rappelez-nous d'une chose, Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans le sermon sur la montagne? Il dit, si ta main pour toi est une occasion de chute, qu'est-ce qu'il demande de faire? Bien, il dit, alors, faites-le pas pour le vrai, là, mais jette-le, coupe-la et jette-la de loin devant toi. C'est mieux que tu entres dans la vie avec sans ta main que d'aller purer dans la géhenne. Donc, les mains innocentes. Premier point, les actions de l'homme. Deuxième point, celui qui a le cœur pur. Le cœur, dans ce cas-ci, c'est l'hébreu qui dit « lebab ». Donc, on parle vraiment de l'homme intérieur, de l'esprit, la volonté, la compréhension de l'homme. C'est l'esprit et la connaissance. Ce sont les pensées, la réflexion, la mémoire. Ce sont aussi le penchant, la résolution et la détermination. Donc, vers quoi on se penche? Vers qui? Ou quels sont nos intérêts aussi? Le côté moral aussi, le siège des appétits qui sont tellement importants, le siège des émotions et des passions. Le cœur pur maintenant, qui vient de l'hébreu, le cœur pur qui vient de l'hébreu bar, ça veut dire que c'est un cœur qui est propre, qui est vide de mauvaises pensées, de mauvaises intentions, de mauvais motifs, qui est sincère et qui est clair. Donc, quand on voyait vraiment une eau claire qui est pure, on peut voir à travers aussi. C'est la même chose pour le cœur qui est pur. C'est ce que demande, c'est plutôt une des conditions pour se rendre ou se présenter devant la présence de Dieu. Ensuite, celui qui ne se livre pas celui qui ne livre pas son âme au mensonge, se livrer dans ce cas-ci, ça voudrait dire aspirer, s'adonner, élever nos cœurs, se porter vers quelque chose. L'âme, comme vous le savez, c'est vraiment la personne entière. Donc, c'est la personne qui vit. C'est la créature, c'est l'être vivant lui-même qui se livre. Puis le mensonge, dans ce cas-ci, peut être traduit également comme vanité, comme vide, comme néant, comme fausseté. Et dans d'autres traductions, ça dit aussi que là, on parle du mensonge, on peut parler aussi des vaines idoles ou des faux dieux. Donc, celui qui ne livre pas son âme au mensonge ou à la vanité, et l'autre point c'est, et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Jurer du mot Shabbat, faire un vœu, faire un serment, se lier par un serment, ne pas tenir la parole, etc. Tromper, c'est-à-dire, ça serait dans un cas où on veut vraiment trahir, on veut vraiment frauder une personne, on veut mentir à une autre personne. Les mains. Donc, on parle de quatre choses ici. On parle qu'il faut que les mains ou les actions, deuxièmement, que le cœur ou les pensées, les motifs, les intentions, troisièmement, que l'âme, la personne elle-même, et quatrièmement, que les paroles, donc, soient pures, soient sans péché. Tantôt, vous avez, je pense, je ne sais pas si c'est toi, Christian, qui l'a mentionné, mais, ou peut-être dans la prière, je pense. On peut poser la question maintenant, qui n'a jamais été coupable de l'une de ces choses? Donc, si on tente de répondre à la question, qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? La réponse, c'est personne, exactement. C'est pas surprenant, mais c'est béni parce qu'on peut continuer le psaume, parce qu'il y a vraiment une solution. Jérémie 17, verset 9 nous dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. » Dans une autre traduction, ça dit qu'il est incurable. Qui peut le connaître? Psaume 14, verset 1, 53, verset 1, qui ont été repris par l'apôtre Paul également. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions, des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Aucun. Psaume 143, verset 2. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Et l'apôtre Paul nous répète ces choses-là. Nul ne cherche Dieu, il n'y a pas même un seul dans Romains chapitre 3, verset 10 et 11 également. Rappelez-vous aussi, en passant, rappelez-vous de lorsque Ésaïe a eu cette vision-là dans le temple. Lui qui venait juste de prononcer 5 malédictions, malheur au peuple, malheur, etc. Il y a 6 malédictions plutôt, et la septième malédiction est envoyée envers lui-même lorsqu'il voit le Seigneur élevé, sur le trône élevé, les pans de sa robe qui remplissaient le temple. Il voit la sainteté de Dieu, les chérubins qui sont en train de chanter « Saint, 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 le Seigneur, l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire. » Et puis il a dit « Malheur à moi ». C'est à son tour d'obtenir ce malheur. Mais encore, pour dans son cas également, le Seigneur a accordé sa provision. Matthieu 15, versets 18 et 19. « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent des mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. » Un auteur qui s'appelle Mark Frank dit « Un homme ne peut pas abandonner un désir, même la traduction plutôt, c'est plutôt abandonner la convoitise, se débarrasser d'une mauvaise fréquentation, quitter le péché, s'engager dans la voie de la vertu, professer sa religion ou s'y tenir. Il ne peut pas gravir la montagne spirituelle, mais il rencontrera l'une ou l'autre de ses difficultés à combattre et à lutter. Mais il ne s'agit pas seulement de monter, mais de rester là, comme le mot l'indique, de continuer à un niveau aussi élevé, d'être constant dans la vérité et la piété, ce qui sera vraiment difficile, il y aura encore plus de difficultés à affronter. » Je pose la question en passant, comment est-ce qu'il y en a ici qui à un moment donné, ont dit « OK, je prends une résolution, je vais être… » Écoutez, tout le monde, on a pris des résolutions, puis on ne parle pas juste du régime, là, on parle vraiment de toutes sortes de circonstances, même, il faut se le voir, il y a même des péchés dans nos vies avec lesquels on va lutter plus particulièrement que d'autres, qui sont plus tenaces. Bon, si on essaie de le faire par nous-mêmes, c'est impossible. C'est absolument impossible. On ne peut pas gravir cette montagne-là sans le secours de l'Éternel. Donc, si nous nous arrêtons au verset 4, justement, qu'on vient de lire, il n'y aurait absolument aucun espoir. Et comme on dit en bon québécois, les carottes seraient cuites. Le reste du psaume nous confirme qu'il y a effectivement la solution, un espoir. Si on se tourne vers les versets 5 et 6, dans la version sommaire, ça nous dit « Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. » Dans la version second 21, j'aime bien aussi, « Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent et qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. » Quand on lit ce passage, le passage qu'on vient de lire, mais ces versets-là montrent qu'il y a vraiment une double bénédiction. Ou pour ainsi dire, qu'il y a une bénédiction à deux sens. Je vais m'expliquer. Si on lit le psaume d'un premier abord, on pourrait penser que la bénédiction découle des bonnes actions de celui qui, premièrement, a les mains innocentes, deuxièmement, a un cœur pur, troisièmement, une âme qui ne se livrera pas à la vanité, quatrièmement, une bouche qui ne trompe pas pour son prochain. Voyons, une bouche qui ne trompe pas son prochain, plutôt. D'un côté, c'est le cas. Il y a vraiment une bénédiction de la part de Dieu pour celui qui manifeste ses fruits ou ses comportements-là, oui. Mais le psalmiste nous indique le prérequis. Par la suite, ça dit, c'est celui qui se tourne vers Dieu et qui s'attache à lui. En un mot, celui qui met sa foi, sa confiance dans le Dieu qui le sauve. On vient de le mentionner dans le verset précédent, le verset 6, plutôt le verset 5. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Alors, c'est important de se rappeler que c'est le prérequis. C'est celui qui se tourne vers Dieu et s'attache à lui. En un mot, celui qui met sa foi, sa confiance dans le Dieu qui le sauve, qui est son sauveur, et cette personne-là va pouvoir manifester les fruits. Donc, l'enfant de Dieu qui est vraiment né de nouveau, l'enfant de Dieu qui est greffé au cep, dont la sève coule, la sève de la vie du Seigneur coule dans la vie de cette personne-là, cet enfant de Dieu-là va manifester les fruits en conséquence aussi. En marchant en obéissance au commandement du Seigneur, il en découle également des bénédictions spirituelles. Oui, l'obéissance à Dieu et à ses commandements comporte des bénédictions. Le Seigneur est favorable à ça. Puis il faut pas oublier ça aussi. OK, il y a vraiment la question de la justification. On est parfaitement juste devant Dieu. Il n'y a rien qui va pouvoir nous enlever ça. Mais il y a aussi la question, comment on va marcher avec le Seigneur par la suite? Et ça aussi, ça compte devant le Seigneur. Spurgeon va dire, par rapport au verset qu'on vient de lire, « Les saints ont donc besoin du salut. Ils reçoivent la justice et la bénédiction est un bienfait de Dieu, leur Sauveur. Ils ne montent pas sur la colline du Seigneur en tant que donateur, mais en tant que bénéficiaire. Et ils ne portent pas leur propre mérite, mais une justice qu'ils ont reçue. La vie sainte assure une bénédiction comme réponse de la part de Dieu trois fois saint, mais elle-même une bénédiction de la nouvelle alliance et un fruit délicieux de l'Esprit. » Donc, je vais leur lire encore. Je trouve que c'est vraiment bien. Les saints ont donc besoin du salut, comme on vient de le lire. Ils reçoivent la justice et la bénédiction est un bienfait de Dieu leur Sauveur. Ils ne montent pas sur la colline du Seigneur en tant que donateurs, mais en tant que bénéficiaires. Et ils ne portent pas leur propre mérite, mais une justice qu'ils ont reçue. La vie sainte assure une bénédiction comme récompense de la part de Dieu, trois fois saint, mais elle est elle-même une bénédiction de la part de la nouvelle alliance et un fruit plutôt délicieux de l'Esprit. Alors, ça marche dans les deux sens. En bout de ligne, le Seigneur nous accorde sa nouvelle vie et on peut manifester les fruits de l'Esprit. Et en même temps, le Seigneur nous appelle à obéir par l'aide du Saint-Esprit. Donc, en bout de ligne, comme on vient de le dire, personne ne peut accéder à la montagne du Seigneur. Il y en a, sauf un seul qui peut accéder à la montagne de l'Éternel où habite la présence du Dieu trois fois saint. Une seule personne peut subsister dans la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ qui est venu en chair comme le dernier Adam, sans péché, qui peut accéder et qui peut y subsister. Comme on l'a lu tantôt, je pense que c'est notre frère Christian qui l'a lu, 1 Pierre 2, 22 nous dit en parlant de Jésus-Christ, « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, c'est vraiment le seul qui peut accéder à la présence de Dieu. » Ésaïe chapitre 53, verset 11, c'est ça la bonne nouvelle en passant. « Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera juste et se chargera de leurs fautes. » Comme on vient de le lire également, si on se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, si on lui fait confiance, si on est uni à lui par la foi, bien maintenant on peut avoir accès, à cause des mérites de Christ, à la présence de Dieu. Et ce qui nous amène au troisième point, la troisième partie, qui est les versets 7 à 10, l'entrée du roi de gloire. Et tantôt, j'ai mentionné que c'était important parce qu'il y avait une pause juste après qu'on ait lu les six premiers versets. Il y a une pause. C'est comme s'il y a vraiment quelque chose qui est sur le point d'arriver. Il y a une pause musicale qui annonce l'arrivée glorieuse du roi. Verset 7. « Relevez vos frontons aux portes. Haussez-vous, vos portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? C'est l'Éternel. » Donc, celui qu'on vient de voir aussi, qui est le Créateur au début du psaume, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel vaillant dans les combats. Relevez-vous, frontons, aux portes. Haussez-vous, vos portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui, le roi glorieux. Alors, c'est lui qui peut entrer dans la présence de Dieu sans aucune crainte. Comme on vient de mentionner, Jésus-Christ est Dieu fait homme. C'est lui qui est le roi glorieux qui a ouvert les portes des cieux par son œuvre parfaitement accomplie. Il est le fort et le vaillant. Il a mené le combat contre la mort et le péché et l'a emporté. Son sacrifice est parfait et est fait une fois pour toutes. Lorsque le Seigneur a mené ce combat sur la croix, il le dit à la toute fin, tout est accompli. Et puis, le Seigneur nous dit, plutôt l'apôtre Paul nous rappelle dans Colossiens en disant qu'il a publié, il les a, j'ai oublié le mot là, il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elle sur la croix. Et puis, c'est ce que le Seigneur a fait quand on dit dans ce verset-là, il dit, l'Éternel, le fort et le vaillant, l'Éternel, vaillant dans les combats, il a combattu ce combat et il l'a mené jusqu'au bout. Il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il a vaincu notre péché. Il a porté notre péché. Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12 nous rappelle. Et ça, c'est ça qui est magnifique. C'est non seulement que cette victoire-là a été faite sur la croix, oui. Et puis, il y en a qui disent, bon, il dit, OK, oui, la résurrection est encore plus importante. Mais rappelez-vous d'une chose, que l'œuvre de Christ, c'est un tout. On ne peut pas séparer la crucifixion, la mort, la résurrection. C'est un tout. Il y a même la glorification par la suite. Le Seigneur a été glorifié. Donc, cette victoire-là est obtenue sur la terre, mais obtenue dans les cieux par la suite. Il l'a manifesté en étant glorifié. Et dans Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12, ça dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Donc, ça s'est produit dans les cieux aussi. Alors, le Seigneur a présenté son propre sang dans le temple céleste. Et c'était suffisant une fois pour toutes. Lorsqu'on parlait tantôt de l'histoire, ou plutôt du récit, où ce que ils ont voulu amener l'Arche de l'Alliance, la première fois, bon, il y a eu Uzza qui a été frappé. Une deuxième fois, lorsqu'ils ont tenté de ramener l'Arche de l'Alliance, et ils ont réussi à le faire, qu'est-ce que David a fait? Il a fait des sacrifices. Mais encore une fois, c'est parce que, humainement parlant, personne n'était digne de pouvoir entrer dans la présence de Dieu avec l'Arche de l'Alliance. Mais Jésus l'a accompli une fois pour toutes. Il est le sacrificateur, mais il est aussi le sacrifice parfait. Donc, il n'y a plus rien qui doit être ajouté. Et non seulement qu'il a aussi présenté son sang dans le lieu céleste, Christ est mort et ressuscité, il est monté dans le lieu céleste avec son sang. Il peut maintenant s'asseoir à la droite de Dieu son Père, en tant qu'homme maintenant. Jésus-Christ a toujours été Dieu, comme de toute éternité, comme vous le savez tous. Mais Jésus-Christ a maintenant vaincu comme homme, régnant sur toutes choses en tant que roi glorieux. Donc cette entrée-là céleste, comme qu'on vient de le voir, c'est linteau qui s'élève, les frontaux, les portes qui s'ouvrent devant. On parle de frontaux éternels, de portes éternelles ici. C'est vraiment dans les lieux célestes que ça représente la victoire de Christ et l'entrée du Seigneur Jésus-Christ aussi dans la présence de Dieu. Rappelez-vous dans Apocalypse, quand que Jean pleurait parce qu'il n'y avait pas personne qui pouvait ouvrir le seau, les seaux, puis il a dit, je vais le lire parce que sinon je vais le moffer, comme on dit. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 5 plutôt. Ça dit qui est digne, verset 2, d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Verset 3, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau et il disait, « Tu es digne de reprendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est celui-là qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire qui est entré dans la présence de Dieu. C'est seulement celui-là qui en est digne. Et ce qui est merveilleux pour nous en terminant, il transporte et apporte avec lui une postérité, comme on l'a lu dans le chapitre 53 d'Ésaïe tantôt. Il transporte et apporte avec lui une postérité, un grand nombre d'hommes et de femmes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Rappelez-vous aussi que lorsqu'il dit « lorsqu'il sera élevé, il attirera les hommes de la terre, tous les hommes de la terre vers lui », non seulement qu'il l'a fait sur la croix, mais il l'a fait aussi lorsqu'il est retourné vers son Père. Parce qu'on était placé en lui, donc on est transporté dans les lieux célestes. Maintenant, on est dans les lieux célestes. Rappelez-vous de ça, même si on ne le voit pas actuellement, on l'est dans la présence de Dieu dans les lieux célestes. C'est encore le déjà, mais pas encore. Jésus est la tête de l'Église et il ne peut être séparé de son corps ou des membres de son corps. OK? Ça, c'est un point qui est important. Jésus est la tête de l'Église et il ne peut être séparé de son corps et des membres de son corps. Alors, cette entrée triomphale que Jésus fait dans la présence de Dieu, il nous amène avec lui. C'est ça qui est merveilleux. Il nous accorde le privilège de pouvoir accéder et se tenir à la montagne de l'Éternel dans la présence de Dieu devant le trône de la grâce. Alors, qui peut se tenir devant la présence de Dieu et se maintenir dans la présence de l'Éternel? Oui, Jésus-Christ seul. Mais nous tous qui sommes bénéficiaires, à cause qu'on était unis avec lui par la foi, on est maintenant dans la présence de Dieu. Et on peut dire que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voilà le roi de gloire, Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Alors, Seigneur, merci pour ce psaume, Seigneur, un des psaumes préférés que j'apprécie, nous rappelant une chose, Seigneur, que personne n'est digne, personne n'est capable par lui-même. Mais Seigneur, tu nous as accordé ce privilège, cette grâce, vraiment d'accéder au trône de la grâce. Maintenant qu'on est unis à toi, il n'y a plus personne qui pourra nous désunir. Et Seigneur, tu nous rappelles même lorsqu'on fait la prononciation des vœux du mariage, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Toi, ce que tu unis, Seigneur Dieu, il n'y a personne qui peut le désunir. Parce qu'on est unis à toi, Seigneur, qui est notre époux et nous l'Église, Seigneur Dieu. Merci pour ce grand privilège du fait que tu nous fais participer aussi à la nature divine par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Merci d'avoir aussi payé cette dette une fois pour toutes. Merci aussi, Seigneur, d'avoir transporté ton sang dans le tabernacle céleste, Seigneur, et d'avoir ouvert les portes de la gloire pour l'homme et la femme qui se confient en toi. Alors, merci, Seigneur, pour l'œuvre accomplie. Je te prie vraiment, Seigneur, on veut découvrir de plus en plus la magnificence de ton œuvre. Et aussi, Seigneur, comme l'apôtre Paul nous le rappelle, de pouvoir être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, de connaître la hauteur, la profondeur, la largeur de ton amour, Seigneur. On veut être saisi par cet amour-là, parce que tu nous as aimés d'un amour parfait. Alors, Seigneur, merci de te révéler à nous, ton peuple. Que ce soit ici à Trinité, Seigneur, que ce soit à la Bible parle à Laval, partout au Québec, Seigneur, on désire te connaître de plus en plus et te faire connaître, et de faire connaître le roi de gloire. Seigneur, les portes sont ouvertes encore une fois, c'est encore jour de grâce. Et Seigneur, accorde-nous vraiment le privilège d'être tes témoins, tes ambassadeurs, pour ta plus grande gloire, Seigneur, et que tous ceux qui entendront parler de toi se tournent vers toi pour magnifier, pour glorifier, pour contempler aussi le roi de gloire. À toi la gloire seule, Jésus-Christ, et merci pour ton œuvre encore une fois dans le nom de Jésus. Amen. Amen.